France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il y a des noms, quelques noms, incontournables dans la science-fiction des origines, des précurseurs, des grands anciens. Parmi ces dinosaures qui ont imaginé les futurs les plus fous dès le 19e siècle, Jules Verne, bien sûr, et côté britannique, son pendant, Herbert George Wells, auteur célébrissime de « La guerre des mondes ». Wells n'aimait pas vraiment être comparé à Jules Verne, mais les deux auteurs avaient bel et bien en commun un certain nombre d'intuitions. Tenez, prenez l'exploration de la Lune, thème inévitable pour toutes les plumes savantes de l'époque. De la Terre à la Lune, de Verne, paraît en 1865. Wells, lui, publie « Les premiers hommes dans la Lune » quelques décennies plus tard, en 1901. Vous allez en entendre un extrait dans un instant. Au menu de cette exploration lunaire imaginée, un métal révolutionnaire créant l'apesanteur et, sur la Lune, une rencontre mouvementée avec la mystérieuse civilisation des Sélénites. Voici « Voyage imaginaire », Herbert George Wells, dans « Collège des ondes », une émission de 1962.
Ici Paris, radiodiffusion télévision française, longueur d'onde 312 mètres. Le service des émissions culturelles présente, en nouvelle diffusion, des extraits du Collège des ondes et de Plaisir de la lecture.
Le Collège des ondes présente une série d'émissions consacrées aux voyages imaginaires. Monsieur Georges Gallet vous parle aujourd'hui du roman de H.G. Wells, « Les premiers hommes dans la Lune », dont Françoise Fechter vous lira quelques pages.
Les voyages orbitaux dans l'espace autour de la Terre deviennent rapidement presque banals, ou du moins ont-ils perdu la plus grande partie de leur aspect prestigieux dans l'esprit du grand public. Ce qu'on attend maintenant, c'est le stade logique suivant, la véritable évasion de la Terre, le voyage dans la Lune. Ce sera la réalisation du plus grand rêve de l'humanité, et l'un des plus vieux, depuis l'Icaroménipus de Lucien, en passant par Cyrano de Bergerac, Kepler, jusqu'à Jules Verne, et surtout H.G. Wells, avec les premiers hommes dans la Lune. Qui était Wells? Simplement le fils d'un jardinier et d'une femme de chambre. Lorsqu'il naquit en 1866, à Bromley, dans le Kent, en Angleterre, Jules Verne avait déjà écrit ses premiers voyages extraordinaires, 5 semaines en ballon, voyage au centre de la Terre à la Lune, et il était célèbre dans le monde entier. Herbert George Wells, Bertie pour ses amis, dut d'abord travailler pour un drapier avant de pouvoir, grâce à une bourse, entrer au Royal College of Sciences pour y faire des études que d'ailleurs il ne termina pas. Après quoi, il passa dans l'enseignement, puis dans le journalisme, et quand en 1896, il décida finalement de devenir écrivain, Jules Verne était toujours vivant, et en dépit de nombreux imitateurs, régnait en maître dans son domaine. H.G. Wells allait pourtant écrire plus de 80 volumes jusqu'à sa mort en 1946. Et il n'est pas sans ironie de constater que ce sont ses romans et ses nouvelles scientifiques, presque tous, écrits avant la mort de Jules Verne en 1905, qui lui ont valu sa plus grande gloire littéraire. Wells était loin d'avoir le grand air de Verne. Le moins qu'on puisse en dire est qu'il manquait de prestance. Et son accent cockney prononcé n'arrangeait rien. Il était furieux qu'on le surnomme le Jules Verne anglais. Et tout au long de sa longue carrière, il s'est défendu d'avoir subi la moindre influence de l'écrivain français. Il ne reconnaissait que celle des voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Il a même écrit « Il y a une qualité dans les plus mauvais de mes écrits soi-disant pseudo-scientifiques, un adjectif imbécile, qui les différencie de Jules Verne, de même que Swift se différencie de la fantaisie, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose d'autre que l'écriture du récit ou le mérite artistique qui ressort de mes ouvrages, quelque chose qu'on peut considérer comme un nouveau système d'idées, de pensées. De son côté, Jules Verne déclarait, dans une interview publiée par un hebdomadaire anglais du 9 octobre 1903, « Je ne vois pas de comparaison possible entre son œuvre et la mienne. Nous ne procédons pas de la même manière. J'ai l'impression que ses récits ne reposent pas sur une base très scientifique. Non, il n'y a pas de rapport entre son œuvre et la mienne. J'applique la physique, il invente. Je vais dans la Lune avec un obus lancé par un canon. Il va sur Mars, sic, dans un ballon, recic, qu'il construit avec un métal qui supprime la loi de la gravitation. Ça, c'est très joli, mais montrez-moi ce métal, qu'il le fasse voir. » Jules Verne n'avait probablement pas lu au-delà du troisième chapitre des Premiers hommes dans la Lune, où Wells évoque incidemment la possibilité d'un voyage à Mars. Et aussi bien l'un que l'autre, il ne se sentait pas sur un terrain très solide. Jules Verne comprenait très bien que Wells menaçait sa suprématie de prophète, et Wells ne pouvait guère laisser s'accréditer l'idée qu'il n'était qu'un imitateur de Verne. Pourtant, celui-ci aurait dû voir que Wells reconnaissait implicitement son influence dès le début du même troisième chapitre, lorsque Cavour explique comment on peut pénétrer dans son véhicule interplanétaire. « C'est parfaitement aisé. Une ouverture pneumatique suffira. Il faudra naturellement qu'elle soit assez compliquée. Une valve sera nécessaire pour permettre de jeter, en cas de besoin, certaines choses dehors sans une trop grande perte d'air. » Et Bedford de remarquer. « Comme dans le projectile de Jules Verne, alors. » Et bien que l'auteur ajoute « Mais Cavour n'avait jamais été un lecteur de ce genre de fiction », on peut tout de même en déduire que Wells, lui, a lu de la Terre à la Lune et autour de la Lune, et qu'il a voulu faire plus fort, faire ce que Jules Verne n'avait pas osé, faire débarquer ses personnages sur la Lune. C'est d'ailleurs la seule fois qu'il aura cette audace du voyage sur un autre monde dans toute son œuvre. Pour cela, dans Les Premiers Hommes dans la Lune, H.G. Wells recourt au thème classique de la merveilleuse découverte avant d'exploiter celui du merveilleux voyage qui nous occupe spécialement. Et son roman, d'un intérêt soutenu et passionnant, présente une autre particularité remarquable. Il a en fait deux fins. Mais prenons les choses par le commencement. Wells part de circonstances apparemment très normales. Mais bientôt, le narrateur, Bedford, fait connaissance avec un personnage bizarre.
C'était un petit homme court, le corps en boule, les jambes maigres, secoué de mouvements brusques. Il avait trouvé bon de vêtir son extraordinaire personne d'une cape de joueur de cricket et d'un pardessus qui recouvrait un veston, une culotte et des bas de cycliste. Pourquoi s'affublait-il de ce costume, je ne saurais le dire, car jamais il n'était monté à bicyclette ni joué au cricket. C'était un assemblage fortuit de vêtements sortant de ses doux. Il ne cessait de gesticuler avec ses mains et ses bras, de balancer sa tête de côté et d'autre, et de ses lèvres sortait un continuel bourdonnement. Il bourdonnait comme une machine électrique. Vous n'avez jamais entendu chose pareille. De temps à autre, il s'éclaircissait le gosier avec un bruit des plus extraordinaires.
C'est ainsi que l'auteur prépare les événements fantastiques qui vont suivre, et en effet, on apprend que...
L'objet des recherches de M. Cavour était une substance qui devait être opaque. Il se servait d'un autre mot que j'ai oublié, mais qui implique l'idée d'opacité à toutes les formes de l'énergie radiante. L'énergie radiante, m'expliqua-t-il, était tout ce qui ressemblait à la lumière, à la chaleur, à ces rayons Röntgen dont il a été en question depuis quelques années, aux ondes électriques de Marconi ou à la gravitation. Tout cela, me dit-il, rayonne autour de centres et agit sur les corps à distance. De là le terme d'énergie radiante. Or, presque toutes les substances sont opaques à une forme quelconque de l'énergie radiante. Le verre, par exemple, est transparent à la lumière, mais il l'est beaucoup moins à la chaleur, de sorte qu'il peut servir à abriter du feu. L'alun est transparent à la lumière, mais bloque complètement la chaleur. D'un autre côté, une solution d'iode dans du bisulfite de carbone intercepte complètement la lumière, mais est parfaitement transparente à la chaleur. Elle vous cachera complètement un feu en permettant à sa chaleur de vous parvenir. Les métaux ne sont pas seulement opaques à la lumière et à la chaleur, mais aussi à l'énergie électrique qui passe à travers la solution d'iode et le verre, presque comme si ces derniers n'étaient pas interposés, et ainsi de suite. Or, toutes les substances connues sont transparentes à la gravitation. On peut employer des écrans de diverses sortes pour intercepter la lumière, l'ardeur et l'influence électrique du soleil ou la chaleur de la Terre. On peut abriter des objets contre les rayons de Marconi par des plaques de métal, mais rien n'intercepte l'attraction gravitationnelle, que ce soit l'attraction terrestre ou l'attraction solaire. Il est bien difficile d'expliquer pourquoi il n'y a rien, et qu'avant ne voyait pas pourquoi une pareille substance n'existerait pas, et à coup sûr, ce n'est pas moi qui pouvais le lui dire.
Cette idée en soi est très valable, et quoi qu'en ait pensé Jules Verne, meilleur que son canon. Sans doute, la gravitation est-elle une force dont la nature reste encore mal connue, quoique depuis Einstein, on puisse penser qu'elle est une parenté avec le magnétisme et l'électricité. L'auteur germano-américain Willie Ley a consacré 4 pages d'un très sérieux ouvrage sur les fusées à démontrer qu'une telle substance antigravitationnelle est scientifiquement impossible. Malheureusement, son raisonnement est aussi difficile à suivre que les fameux calculs qui établissaient mathématiquement l'impossibilité du plus lourd que l'air 2 ans avant que les frères Wright démontrent le contraire en volant. Jusqu'à plus ample informé, l'impossibilité de l'antigravitation n'est pas plus valablement établie. Et même, des recherches sont actuellement en cours dans tous les grands pays qui pourraient bien démontrer le contraire avant très longtemps. Bref, à partir de cette merveilleuse découverte, tout va s'enchaîner logiquement sans que l'auteur exige une autre concession du lecteur. On frise bien une catastrophe planétaire à cause de l'invention de Cavour, mais ce n'est qu'un incident. Et il construit sa sphère, que Jules Verne a traité de ballon, pour voyager dans l'espace.
La sphère intérieure de verre sera impénétrable à l'air et, excepté l'ouverture, elle sera continue. La sphère d'acier peut être faite par section, dont chacune s'enroulera sur une armature à la façon d'un store à cylindres. On pourrait les actionner facilement par des ressorts, les ouvrir et les fermer au moyen de l'électricité transmise par des fils de platine fondus dans le verre. Tout cela n'est qu'une question de détail. Vous voyez donc qu'à part l'épaisseur des cylindres, l'extérieur de la sphère enduit de cavorite consistera en fenêtres ou en stores, comme vous voudrez les appeler. Or, quand toutes ces fenêtres ou ces stores seront fermées, ni lumière, ni chaleur, ni gravitation, ni énergie radiante d'aucune sorte ne pourra pénétrer à l'intérieur de la sphère. Elle s'envolera à travers l'espace en ligne droite, comme vous l'avez dit. Mais ouvrez une fenêtre. Imaginez une des fenêtres ouvertes. Alors immédiatement, tout corps pesant qui se trouvera dans nos parages nous attirera. Je m'assis, essayant de mieux comprendre. « Vous y êtes ?» fit-il. « Oh oui, j'y suis. » Pratiquement, il nous sera possible de virer et de louvoyer dans l'espace à notre fantaisie, d'être attiré par ceci et cela. Oh, oui, c'est assez clair seulement. Quoi ? Je ne vois pas très bien à quoi ça servirait. Ça ne serait que faire un saut hors du monde pour y retomber. À coup sûr, par exemple, on pourrait aller dans la Lune.
Nous voici donc dans le merveilleux voyage. Bedford et Cavour partent dans la sphère vers la Lune et ils y arrivent.
Pendant l'espace d'une seconde, Cavour ouvrit une fenêtre sur la Lune, et nous vîmes que nous tombions vers le centre d'un immense cratère, autour duquel d'autres cratères plus petits se groupaient, en forme de croix. Alors Cavour enroula de nouveau les stores de la sphère du côté du soleil brûlant et aveuglant. Je suppose qu'il se servait de l'attraction du soleil comme d'un frein. « Enveloppez-vous d'une couverture !» me cria-t-il en circulant vivement. Et pendant un moment, je restais sans comprendre. Je tirai ma couverture d'entre mes pieds et l'enroulai autour de moi en me couvrant la tête. Brusquement, il referma les stores, en ouvrit un autre qu'il referma, puis se mit à les ouvrir tous pour les abriter chacun sur son cylindre d'acier. Il y eut un choc bruyant, et nous culbutâmes en tous sens, nous heurtant contre la paroi de verre, contre le gros ballot de nos bagages, et nous cramponnant l'un à l'autre. Au dehors, une substance blanche s'éclaboussait de toutes parts, comme si nous roulions au long d'une pente de neige. Après une série de chocs vertigineux, il y eut un dernier coup sourd, je fus admis écrasé sous le poids de nos bagages. Pendant un certain temps, tout fut tranquille. Puis j'entendis Cavour haleter et grogner, ensuite le bruit d'un store en mouvement. Je fis un effort, repoussai le ballot et le relevai. Nos fenêtres ouvertes étaient visibles comme des carreaux de noir profond sertis d'étoiles. Nous étions bien vivants et la sphère demeurait immobile dans l'ombre épaisse de la muraille du grand cratère dans lequel nous étions tombés.
La neige, qui a amorti l'arrivée de la sphère, n'est autre que de l'air congelé. Avec la venue du jour lunaire et le lever du soleil, cette neige va s'évaporer, devenant une atmosphère ténue, mais très oxygénée et respirable. Puis, des plantes étranges se mettront à pousser.
Imaginez cela. Imaginez cette aube. La résurrection de l'air congelé, l'agitation et l'animation du sol, puis cette silencieuse poussée de végétation, cette montée surnaturelle de plantes charnues et aiguës. Concevez tout cela, éclairé par un éblouissement auprès duquel la plus intense clarté terrestre semblerait faible et trouble. Et toujours, au milieu de cette jungle vivante, partout où restait quelque ombre, s'attardaient des traînées de neige bleuâtre.
Et nos deux astronautes partent en exploration. Ils ne pèsent plus que le sixième de leur poids, courent, sautent, cabriolent, tant et si bien qu'ils se perdent.
Je scrutais du regard les alentours dans le vain espoir de reconnaître quelques monticules ou fourrés avoisinant la sphère, mais partout, c'était la même déconcertante uniformité. Partout, des buissons qui s'élevaient, des fongosités qui se distendaient, des bancs de neige qui diminuaient tous, incessamment et inévitablement changés. Le soleil écorchait et accablait. La faiblesse d'une faim inexplicable se mêlait à notre infinie perplexité. Tandis que nous restions là, confondus et perdus parmi ces choses inhabituelles, nous perçûmes pour la première fois sur la Lune un son autre que le bruissement des plantes, le faible soupir du vent ou les bruits que nous avions faits nous-mêmes. Boum, boum, boum. Cela sortait de dessous nos pieds, une explosion qui provenait de l'intérieur du sol. Nous l'entendions, nous semblait-il, autant avec nos pieds qu'avec nos oreilles. Sa sourde résonance était étouffée par la distance, épaissie par la nature des substances interposées. Je n'aurais pu imaginer de bruit qui nous eût plus étonnés ou qui eût plus complètement transformé l'apparence des choses qui nous entouraient. Car ce son riche, lent et régulier nous parut ne pouvoir être autre chose que le battement de quelques gigantesques pendules enfouies dans la croûte lunaire. Boum, boum, boum.
Bedford et Cavor repartent à la recherche de leur sphère et aperçoivent d'abord un veau lunaire, une espèce de chenille énorme de 30 mètres de tour et 60 mètres de long, puis un sélénite.
Par contraste avec les veaux lunaires, il paraissait être une créature insignifiante, une fourmi d'un mètre 80 de haut. Il portait des vêtements faits d'une substance semblable à du cuir, de sorte qu'aucune partie de son véritable corps ne paraissait, mais cela, nous l'ignorions encore entièrement. Il se présentait donc comme une créature compacte et hérissée, ayant beaucoup d'analogies avec un insecte compliqué muni de longs tentacules semblables à des lanières et d'un bras cliquetant qui se projetait hors de son corps cylindrique et brillant. La forme de sa tête était dissimulée par une sorte de casque énorme et muni de pointes longues et nombreuses. Nous découvrîmes par la suite qu'il se servait de ses pointes pour aiguillonner les animaux récalcitrants et une paire de besicles de verre sombre disposés sur les côtés donnait un aspect de gros bourgeon à l'appareil métallique qui recouvrait sa tête. Ses bras ne dépassaient pas l'espèce d'étui ou de fourreau qui enfermait son corps et il était soutenu par deux courtes jambes qui, bien qu'enveloppées dans une sorte de housse, paraissaient à nos yeux terrestres extraordinairement menues et faibles. Il avait des cuisses très courtes, des jambes fort longues et de petits pieds. Malgré son enveloppe d'aspect pesant, le sélénite avançait par enjambées qui, au point de vue terrestre, eussent été considérables, et son appendice cliquetant était très affairé. La nature de ses mouvements, pendant le court instant où nous le vîmes passer, suggérait la hâte et une certaine irritation. Peu après que nous l'eûmes perdu de vue, nous entendîmes le beuglement d'un des animaux se changer brusquement en un cri bref et aigu, suivi de bruissements plus rapides, dus à l'accélération de son allure. Graduellement, ses mugissements s'éloignèrent, et ils finirent par cesser, comme si les pâturages cherchés eussent été atteints.
Les deux hommes ont de plus en plus faim et soif. Ils se risquent à manger d'une sorte de champignon qui les enivre et les endort. Quand ils se réveillent, ils sont prisonniers et enchaînés dans les profondeurs de la Lune. Des sélénites les emmènent à travers des galeries où ils entrevoient de formidables machines. Elles fabriquent une étrange substance qui, en s'écoulant par des conduits à travers les cavernes, répand une lumière froide et bleuâtre. Les sélénites qui les entraînent toujours plus profondément dans la Lune veulent les obliger à franchir une étroite passerelle au-dessus d'un gouffre ténébreux. L'un des sélénites donne même un coup d'aiguillon à Bedford qui en rompt sa chaîne.
Pendant une seconde au moins, je fus affolée de crainte et de colère et ne pensais nullement aux conséquences. Ma chaîne enroulée autour de mon poing, je frappais droit devant moi en pleine face le monstre à l'aiguillon. Alors, se produisit une de ces horribles surprises dont le monde lunaire est plein. Ma main, ainsi cuirassée, sembla passer à travers ce corps qui se brisa comme un œuf. On eût dit que j'avais frappé sur une de ces pâtisseries à croûte dure qui renferment du liquide. Cela céda sous mon poing, et le corps sans consistance tourna et trébucha pendant une douzaine de mètres, et s'affaissa comme une masse flasque. Ma stupéfaction fut extrême, car je ne croyais pas qu'une chose vivante pût être aussi peu solide, et j'aurais pu aisément me figurer que j'étais le jouet d'un rêve.
Les deux hommes s'enfuient, et non sans bataille, réussissent miraculeusement à regagner la surface lunaire. Bedford s'aperçoit alors que leurs chaînes, les barres qu'ils ont ramassées pour s'armer, sont en or, de même que tout ce qui est en métal dans la Lune. Ils se séparent pour aller à la recherche de la sphère. Bedford tombe dessus par hasard, mais Cavor a disparu. Bedford ne retrouve que sa casquette et un papier froissé avec un bref message à peine lisible. Cavor, blessé, a été repris par les sélénites. La nuit vient sur la Lune, avec le froid terrible, l'air qui tombe en neige. Bedford n'a que le temps de regagner la sphère qu'il atteint in extremis. Il repart pour la Terre et atterrit sur une petite plage anglaise. Des jeunes gens le prennent pour un naufragé et s'émerveillent de ses chaînes et des grosses barres d'or qu'il ramène. On ne le croit pas quand il dit revenir de la Lune, et tandis qu'il se restaure, on entend un sifflement formidable. Un gamin est entré dans la sphère, a manipulé les boutons, et il a disparu dans l'infini. Bedford est seul survivant. C'est la fin de l'aventure. Une fin très traditionnelle, en somme, par la perte ou la destruction de la merveilleuse invention. Mais H.G. Wells ne s'arrête pas là. Il n'a pas décrit la vie dans la Lune, et il entend le faire. Un bricoleur radio-amateur informe Bedford qu'il a capté et enregistré des messages fragmentaires que Cavor a réussi à transmettre de la Lune. On apprend ainsi que celle-ci est trouée comme du gruyère, de cavernes en partie naturelles, en partie artificielles. L'air est de plus en plus dense au fur et à mesure qu'on s'enfonce vers le centre, où il y a un immense océan. Les sélénites, eux, sont l'aboutissement d'une évolution contrôlée qui les a incroyablement différenciés et spécialisés.
À vrai dire, il ne semblait pas y en avoir deux de semblables dans toute cette cohue bondissante. Ils différaient de forme, ils différaient de dimension. Certains étaient arrondis et haut perchés, d'autres couraient entre les jambes de leurs compagnons ou s'enroulaient, s'entrelaçaient comme des serpents. Tous suggéraient d'une façon grotesque et inquiétante l'idée d'un insecte qui aurait, en un certain sens, voulu caricaturer l'humanité. Tous offraient une inconcevable exagération de quelques traits particuliers. L'un avait un vaste avant-bras droit, une immense antenne, pouvait-on dire. L'autre semblait tout en jambes, comme équilibré sur des béquilles. Celui-ci projetait un énorme organe en forme de nez à côté d'un œil vif qui lui donnait un surprenant aspect humain tant qu'on ne voyait pas le bas de sa face sans expression. Il faisait penser à ces polichinelles fabriquées avec des pinces de homard. L'étrange tête d'insecte, à part le manque de mandibules et de palpes, des gardeurs de bétail lunaire, subissait d'étonnantes transformations. Ici, elle était large et aplatie, là, longue et étroite. Ici, le front absent était remplacé par des cornes et d'autres appendices. Là, le visage était entouré d'une espèce de barbe et avait un profil grotesquement humain. Il y avait certaines boîtes crâniennes distendues comme des vessies jusqu'à des dimensions formidables. Les yeux aussi étaient étrangement variés, certains tout à fait éléphantins dans leur petitesse alerte, d'autres des trous de ténèbres. On voyait des formes déconcertantes, avec des têtes réduites à des proportions microscopiques et des corps en boule, ainsi que des choses fantastiques et sans consistance qui paraissaient n'exister que pour servir de base à de vastes yeux fixes et bordés de blanc.
Naturellement, Wells se trouve alors en face du problème de la communication entre un homme de la Terre et les sélénites. il le résout d'une façon très classique. Deux sélénites sont chargés de garder et d'étudier Cavour. L'un, Fi-Hou, est un linguiste spécialisé, et l'autre, Tsipouf, un mémorateur infaillible. À eux deux, ils apprennent rapidement l'anglais. Et finalement, Cavour est conduite en audience solennelle devant le grand lunaire.
D'abord, quand j'essayais de le distinguer mieux dans l'éblouissante clarté, ce cerveau quintessentiel me parut fort semblable à une vessie opaque et sans trait, avec des ombres vagues et onduleuses de circonvolutions qui s'agitaient. Puis, au-dessous de cette énormité, et juste au-dessus du bord du trône, on apercevait, en tressaillant, de minuscules yeux pénétrants qui vous examinaient du milieu de ce rayonnement. Pas de visage, mais des yeux, réfugiés dans deux trous. Au premier moment, je ne pus voir que ces petites prunelles fixes, au-dessous desquelles je distinguais un corps de nain aux membres d'insectes pâles et recroquevillés. Le regard de cet être s'abaissait vers moi avec une étrange intensité, et la partie inférieure du globe céphalique était plissée. De petites mains, tentacules d'aspect inutile, maintenaient cette forme sur son trône.
Le grand lunaire interroge Cavour sur la vie terrestre, et il est très surpris, choqué, de la folie des hommes, de leur utilisation de la même espèce d'individu pour toutes sortes de tâches, et surtout de leur guerre sanguinaire et absurde. Après une longue interruption, arrive le dernier des messages de Cavour.
C'est le fragment le plus court que nous ayons, les commencements interrompus de deux phrases. Voici le premier. J'ai été fou de faire connaître au grand lunaire. Il y eut un intervalle d'une minute environ, dû, peut-on croire, à quelque intervention extérieure. Il s'éloigne de l'instrument, pris d'une horrible hésitation parmi les masses confuses d'appareils entassés dans cette caverne obscurément bleue. Il y revient précipitamment, plein d'une résolution qui vient trop tard. Alors parvient ceci, comme transmis en hâte. Cavorite fabriqué comme suit. Prenez, ici vient un mot qui, tel que nous l'avons, est absolument dénué de sens. Inut. Et c'est tout. Il se peut que Cavour ait voulu rapidement épeler le mot inutile lorsque son destin devint imminent. Quoi qu'il se fût produit autour de l'appareil, nous ne saurions le dire. En tout cas, nous ne recevrons plus, j'en ai la certitude, de nouveaux messages de la Lune. Pour ma part, un rêve des plus nets est venu à mon aide, et je vois presque aussi distinctement que si j'avais assisté à la chose, un Cavour échevelé, dans une lumière bleue uniforme, se débattant sous l'étreinte d'une multitude de ces insectes sélénites, luttant de plus en plus désespérément à mesure qu'il fourmille plus nombreux autour de lui, criant, suppliant, peut-être même à la fin se défendant et refoulé pas à pas, hors de portée de ceux de sa race, rejeté pour toujours dans l'inconnu, dans les ténèbres, dans le silence qui n'a pas de fin.
Cette fois, tout est bien fini. Bien sûr, H.G. Wells, dans ce roman de science-fiction, refuse de laisser limiter son imagination par la stricte orthodoxie scientifique de son époque. Jules Verne le lui avait reproché, mais lui-même n'avait fait des études que de droit, et ses connaissances scientifiques venaient soit de vastes lectures, il avait consulté plus de 500 ouvrages pour écrire de la Terre à la Lune, soit de relations savantes. Wells, lui, avait au moins entamé des études scientifiques, même si le seul diplôme qu'il ait jamais eu, celui de docteur ès sciences de l'Université de Londres, il ne l'obtint qu'à 66 ans, longtemps après avoir écrit « Les premiers hommes dans la Lune ». Entre-temps, il avait acquis quelques prétentions d'écrivain à message social et s'indignait d'être condamné à écrire des romans et des contes scientifiques, écrivait-il à Arnold Bennett, « pour vous, les créatures de la foule ». Cependant, il n'est pas douteux qu'en écrivant « Les premiers hommes dans la Lune », il a été davantage entraîné par le récit de l'aventure, du merveilleux voyage, que par la satire sociale. Quoi qu'il ait déclaré plus tard, avoir voulu regarder l'humanité à distance et parodier les effets de la spécialisation. Il l'a fait aussi, c'est entendu, et on peut en tirer une leçon. Une petite remarque en passant. Il n'y a pas de femme dans son roman. En tout état de cause, c'est le merveilleux voyage dans la Lune qui, un demi-siècle plus tard, et même davantage, laisse encore l'impression la plus profonde dans l'esprit du lecteur.
Vous venez d'entendre des extraits du roman de Wells, Les premiers hommes dans la Lune, lu par Françoise Fechter et présenté par Georges Gallet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la Radiodiffusion nationale le 19 juin 1962.